Bonsoir Mathieu Laurent pour le journal de la rédaction.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Les enquêteurs cheminent quelques heures après l'attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés à Paris. Celui qui est passé à l'acte était entre autres fiché S. Que dire du travail des services? Nous serons dans un instant en ligne avec Éric Dénessé, spécialiste du renseignement. La voie est libre pour Quim Torra, le futur président du Parlement de Catalogne. La Coupe, parti d'extrême gauche, qui s'est abstenu hier, lui accordera sa confiance demain. Nous nous rendrons également à Gaza demain, point culminant de la marche du retour, le jour de la célébration du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Puis en fin de journal, nous échangerons avec Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU Social, au sujet des 2400 réfugiés entassés dans trois campements de fortune dans le nord de Paris. Deux d'entre eux sont morts cette semaine par noyade. L'enquête sur l'attaque au couteau d'hier soir, quartier de l'Opéra Garnier, a mené à l'arrestation et des parents de l'assaillant à Paris et à l'un de ses amis, basé lui à Strasbourg. Un jeune homme de 29 ans est mort, quatre autres passants ont été blessés, ils sont hors de danger. L'organisation État islamique a revendiqué cet acte sans tarder. Que sait-on de l'assaillant? Qu'il est né à Argoun, en Tchétchénie, en 1997, qu'il a acquis la nationalité française à l'âge de 13 ans et qu'il est fiché S depuis l'été 2016, fiché S pour sûreté de l'État est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation islamiste. Quelques voix politiques de droite et d'extrême droite se sont levées pour remettre en cause et le travail des services de renseignement et la pertinence de ces fameux fichiers. Nous sommes convenus en ligne avec vous, Éric Dénessé. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Comment percevez-vous ces critiques sur les manques et les failles de ces services ?
Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut être objectif. On est là dans la querelle politicienne parce que les services, encore une fois, c'est une espèce d'alibi. Il faudrait dire, est-ce qu'on parle des services de renseignement, des services de police? Donc tout ça est un peu grotesque, il faut le dire. D'autant que le criminel a été assez rapidement neutralisé. Bien sûr, il a tué un de nos compatriotes. Mais encore une fois, on s'aperçoit qu'il était bien fiché S, qu'il a été éliminé rapidement. Et donc on est malheureusement, dans une forme de fatalité, il est quasiment impossible d'empêcher ce type d'attentat au couteau.
Alors, on vient de faire allusion à deux fichiers, hein. le fichier S et le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation islamiste. Ils sont complémentaires ?
Oui, ils sont complémentaires. Alors déjà, j'insiste sur le point, ça montre bien que l'individu avait été repéré. Le fichier de signalement pour les personnes en voie de radicalisation terroriste, c'est un fichier qui n'est pas un fichier de criminel au sens propre. C'est toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, ont été perçues comme étant soit radicalisées, soit proches d'individus radicalisés. Et donc, il y a à peu près 20 000 noms dans ce fichier. Et les personnes les plus dangereuses de ce fichier SRPT se retrouvent dans le fichier S. Alors, il y a plusieurs catégories dans le fichier S, mais les plus dangereux sont y figurent. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est sur un fichier SPRT ou sur un fichier S...
Que notre nom est activé pour autant, c'est ça ?
Voilà, la personne va faire l'objet d'un certain nombre de vérifications, car des contrôles d'identité, on signale que tel ou tel individu était à tel endroit, mais ça ne veut pas dire qu'il est pris sous filature. Ce ne sont que les personnes qui sont considérées comme les plus dangereuses par les évaluations des services de renseignement qui sont, elles, en surveillance permanente. Donc, ce n'était pas le cas de ce jeune criminel.
Alors, ses origines tchétchènes, un dernier mot justement, Éric Dénessé, font que ce soir, on constate des spéculations sur une filière tchétchène en France. Qu'en pensez-vous ?
Non, ça n'a pas encore de sens. Alors, plusieurs éléments à ça. On a parlé de la filière tchétchène dans les années 2006 au moment du procès, mais il faut rappeler que ce n'était que des Algériens ou des Français d'origine algérienne qui étaient engagés dans les opérations terroristes. C'est ceux qui avaient été arrêtés en 2001-2002. Aujourd'hui, les Tchétchènes en France sont plutôt présents dans le sud du pays, et ils sont particulièrement connus pour leurs activités liées au réseau de la drogue et au réseau criminel. Donc, nous n'avons pas, au sens propre, de filière de terroristes tchétchènes sur le territoire français. Je pense qu'une nouvelle fois, on a affaire à un individu isolé.
Dernier mot, Éric Dénessé, brièvement. Que dites-vous de ces spéculations, justement, politiques, sur les services? Est-ce qu'on monte en puissance du côté des services depuis, malheureusement, la vague d'attentats?
C'est deux choses. D'abord, effectivement, depuis les attentats de 2015, un certain nombre de recrutements ont été faits. Donc les jeunes femmes et les jeunes gens qui sont rentrés dans les services ont été formés et on commence aujourd'hui à les voir entrer en action. Donc le gap entre l'efficacité terroriste et l'efficacité des services est en train de se réduire. Et puis je crois qu'il faut rappeler aujourd'hui, encore une fois, malgré l'horreur et la tristesse des événements que nous venons de vivre, que les actes terroristes sont la plus faible cause de morts violentes en France, très loin, très très loin derrière les homicides, les accidents de la route, les accidents domestiques et nombre d'autres. Aussi horrible que ça puisse paraître, nous ne pouvons pas logiquement mettre la totalité des services de sécurité sur un sujet de cette nature, car il y a d'autres domaines à surveiller.
Merci à vous, merci Éric Dénessé d'avoir accepté notre invitation. Un lundi noir sur les rails, ce sont les termes de la direction de la SNCF. Demain, seconde journée d'un 9e round de grève avec l'ambition d'une journée zéro train et une consultation des salariés sur la réforme du gouvernement. Consultation initiée par les syndicats et baptisée Vote Action, sans aucune valeur, selon la hiérarchie de la compagnie. Le Parlement de la Catalogne aura demain un président, il s'appelle Quim Torra. Il fallait un peu de temps au parti indépendantiste d'extrême gauche, candidature d'unité populaire, la coupe, un peu de temps pour, on y revient, consulter sa base et plus rien ne s'oppose à ce que Quim Torra obtienne la majorité relative. Madrid lèvera donc automatiquement la tutelle imposée à Barcelone. C'est une correspondance de Mathieu de Taillac.
Le suspense était bien réel. Certes, on pouvait penser que la logique politique voulait que la coupe laisse passer l'indépendantiste Quim Torra. Le candidat, lors des débats parlementaires samedi, s'était lancé dans un discours offensif. Il avait même promis de lancer un processus pour rédiger une constitution pour la République catalane. Mais la coupe, anticapitaliste, eurosceptique et antisystème, est imprévisible et personne n'osait vraiment aventurer le sens de la décision du conseil du parti. Finalement, le porte-parole annonçait que leurs 4 députés s'abstiendraient lors du 2e tour et qu'ils garantiraient donc l'investiture de Quim Torra, la majorité relative. Et en même temps, Luxalleyas a maintenu les distances avec les deux grands partis indépendantistes. Il les a accusés d'avoir opéré une reculade depuis le référendum du 1er octobre et la déclaration d'indépendance du 27. Il a justifié la décision du parti par le contexte, je cite, « de la répression de l'État ». Une fois le gouvernement catalan constitué, Mariano Rajoy, il s'y est engagé, lèvera la tutelle exercée sur les institutions régionales. Madrid a toutefois averti de son intention de surveiller de très près et de prendre des mesures au premier soupçon d'illégalité. Le candidat, jugé trop timoré par la coupe, est déjà dans la ligne de mire du gouvernement espagnol.
Mathieu de Taillac à Madrid, ceux qui ont voté hier en Irak, et ils sont peu nombreux, semblent avoir choisi de corriger une classe politique corrompue. Taux d'abstention massif, toutes confessions confondues, résultat définitif au mieux mardi prochain. La première étape du déménagement progressif de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, reconnue comme capitale d'Israël par Washington, sera célébrée officiellement demain. Les Palestiniens dénoncent une provocation et attendent pour certains une journée de rage. Gaza se prépare en effet à l'une des plus importantes manifestations de ces dernières années, point culminant de la marche du retour. Gaza, Étienne Monin.
Et quand vous parlez à l'un des soutiens de cette marche, il tient un discours contradictoire. À la fois, il affiche un souci de garder une forme pacifique et maîtrisée autour de cette marche. Et en même temps, il vous promet que la frontière israélienne sera ouverte en fin de journée, ce qui serait à coup sûr l'annonce d'un bilan humain catastrophique. La marche du retour atteint le moment de vérité. Gaza, pour l'instant, n'a rien obtenu à part un gain d'image que Maher Miser du Comité national d'organisation compte bien accentuer demain en opposant la marche pacifique palestinienne à l'usage disproportionné de la violence côté israélien.
Un de nos objectifs principaux, c'est de montrer au monde le vrai visage de notre ennemi qui se prétend démocratique alors qu'il est brutal et qu'il tue des enfants.
Le comité mise tout sur cette marche. Il a envoyé des textos mobilisés dans les mosquées, fait des appels aux haut-parleurs, multiplié les points de manifestation à la frontière. L'ambassade des États-Unis renforce les premiers mots d'ordre initialement utilisés. La mobilisation sera un indicateur important sur ce qui reste d'espoir dans la bande de Gaza.
Étienne Menin à Gaza. Il est 18h et tout juste 9 minutes. Vous écoutez Journal de France Culture. Venons-en à la situation des 2400 réfugiés qui survivent dans 3 campements dans le nord de Paris, avec cette semaine la mort de 2 d'entre eux. La maire de Paris et l'État n'échangent que pour s'invectiver ou presque, et rien ne change. Tout s'aggrave. Nous sommes en ligne avec l'ancien secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence et fondateur du SAMU social, cofondateur de Médecins sans frontières. Bonsoir Xavier Emmanuelli.
Bonsoir.
2400 réfugiés et non 2400 migrants. Vous tenez à réajuster la sémantique parce que, dites-vous, c'est un piège parmi d'autres. Quels sont ces pièges ?
déjà, le mot migrant, ça veut rien dire. C'est des immigrants, mais dedans, vous avez des réfugiés, réfugiés de guerre, vous avez des réfugiés météorologiques, si j'ose dire, vous avez des gens aussi qui tentent leur chance. Donc migrant, c'est un peu un tout qui paraît extrêmement hostile et agressif. Donc déjà, dans le mot migrant, il y a une connotation d'agression. Et puis, on peut dire que c'est des itinérants, en quelque sorte, qui tentent leur chance pour aller, par exemple, en Angleterre. Mais ça, c'est même pas dit. C'est pour ça qu'on met le mot migrant, comme ça on est tranquille.
Alors, que faut-il faire dans l'immédiat avec ces 2400 réfugiés ?
Écoutez, là, une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas les laisser tous au même endroit. Il faut analyser chaque cas, je sais que c'est difficile. À mon avis, j'en avais parlé avec les gens du HCR, des petits camps d'accueil où les gens restent très peu de temps, où on peut les soigner, on peut les nourrir, on peut les mettre à l'abri et surtout examiner très vite leur situation. Et après, ceux qui doivent être refoulés le seront, ceux qui doivent être accueillis avec l'asile le seront aussi. Mais on ne peut pas mettre un magma comme ça de gens qui sont en danger où tout peut arriver, aussi l'hygiène, les bagarres, les trafics, tout ce que vous voulez, et jusqu'à la noyade de pauvres gars qui ont traversé l'Europe au prix de bien des périls pour venir noyer dans le canal. Donc, à mon avis, il faudrait les disperser dans des petits camps sous la
responsabilité, dites-vous, du HCR. Mais Xavier Emmanuelli, il faut pour cela une puissance accueillante. Est-ce que les petites et moyennes villes de France sont prêtes à justement accueillir par petits groupes ces réfugiés ?
On va pas leur imposer, mais je suis absolument sûr que des tas de petites villes sont capables de toute façon d'accueillir pour ces camps provisoires. Et j'ai constaté de moi-même, de visu, que des petites villes qui s'endorment ou qui sont mourantes seraient tout à fait contentes d'avoir quelques familles avec des enfants et les accueilleraient bien volontiers. Vous savez, quand on demande aux gens s'ils sont prêts à l'hospitalité, vous seriez surpris de voir la générosité des personnes. Bien entendu, faut pas, les grands nombres font toujours peur et puis ça serait à nouveau un ghetto. Mais des petites unités, des familles, oui, c'est possible.
Vous pensez pas, pardonnez-moi, monsieur Emmanuelli, vous pensez pas que la notion même d'altérité est abîmée ?
Mais oui, pardonnez-moi, mais les médias ont leur part.
Je vous en prie.
Mais quand on présente les migrants avec l'islam, d'ailleurs on fait des islamismes, c'est vrai que c'est des gens qui ont ni les mêmes coutumes, ni les mêmes religions. Nous, on a fait depuis longtemps la séparation de l'Église et de l'État. Les gens, très souvent, ceux qui viennent pour demander asile, n'ont pas fait cette dichotomie. Et il faut qu'ils apprennent et la laïcité et la citoyenneté. Et donc, on peut pas les présenter comme des objets d'horreur, des gens qui vont tout casser et qui vont détruire notre manière de vivre. Et je pense qu'il y a une pédagogie à faire. Mais est-ce qu'on est prêt à la faire ?
Est-ce que les puissants sont prêts à la faire, Xavier Emmanuel ? Est-ce que les puissants sont prêts à la mener, cette pédagogie ?
Vous savez, c'est difficile à répondre. Je pense que l'Europe n'a pas ce projet, en tout cas, puisqu'elle caresse dans le sens du poil des gens comme la Hongrie, comme la Tchéquie, comme la Pologne, qui veulent surtout pas de migrants, comme l'Autriche maintenant, et qui font en quelque sorte des programmes politiques dans le rejet. Alors je vois pas très bien les pays qui... Déjà l'Allemagne, quand elle a accueilli, Merkel en a payé le prix politique. Non, je crois pas que les puissances elles-mêmes puissent faire cette pédagogie. Non, pas encore. Je pense que c'est à chacun d'entre nous, aux médias, de le faire petit à petit, de faire tomber l'angoisse, la terreur, la haine. Et il y a tout un boulot à faire.
Bon, merci infiniment en tout cas, on va rester sur cette note plus encourageante que le manque d'enthousiasme et le cynisme que vous avez souligné. Merci d'avoir accepté notre invitation, Xavier Emmanuelli. Quelques mots de météo avant de refermer ce journal. Temps perturbé sur l'ensemble du pays demain, température minimale comprise entre 5 et 13 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.